Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être à nouveau au milieu de vous. C'est la deuxième fois. Il ne veut pas tenir, c'est pas grave. C'est donc la deuxième fois que je viens au milieu de vous. Et désolé. Je suis toujours content d'être là et d'être avec vous. Parce que comme on l'a si bien dit, nous formons une seule famille, n'est-ce pas? Nous sommes une seule église, l'église de Jésus-Christ. Les dénominations, ça importe peu. Parce qu'au ciel, vous voyez, il n'y aura pas de dénomination. On ne pourra pas dire, moi je suis de l'église X, de l'église Y. Non, tout ce qu'on devra savoir, c'est... Est-ce que Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Si tel est le cas, alors tu es un enfant de Dieu. C'est la seule chose qui importe. Si nous choisissons, quel que soit le lieu d'où nous venons, de marcher conformément à la parole de Dieu, alors le ciel nous est ouvert. Alléluia. Merci Francis, parce que tu as merveilleusement introduit mon message. Tu vois, c'est que le passage que tu viens de lire, c'est exactement celui qui va sous-tendre notre réflexion ce soir, cet après-midi. Donc 1 Timothée 4, 12 à 16. Je vais lire dans une version qui est la seconde 21. Donc il peut y avoir une petite différence au niveau de quelques mots, de quelques tournures. Alors voilà ce qui est écrit, je relis donc, il l'a lu pour nous, donc je vais le relire pour nous une fois de plus. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tous les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Si je vous dis à quelle période sommes-nous dans la vie de la République, dans la vie actuelle en France, à quelle période sommes-nous? Vous allez me dire certainement, nous sommes dans une période électorale. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand vous ouvrez votre télévision, votre radio, vous n'entendez que ça. Des gens qui commentent sur tout, sur tel candidat qui a dit ceci et sur tel autre qui a promis. Mais qu'est-ce qui reste des promesses de tous ces candidats lorsqu'ils sont en poste? Parce que voyez-vous, il y a un passif, il y a un arrière-plan. On peut regarder en arrière et se dire, mais il y a 20 ans, un candidat a promis ceci. Est-ce qu'il a fait la moitié de ce qu'il a promis? Je crois que la réponse est non. Et il y a 15 ans, et il y a 10 ans, et il y a 5 ans, et on se rend compte qu'en fait, les promesses que toutes ces personnes-là qui briguent, je veux dire, le poste de président, toutes les promesses qu'ils font en général, nous sommes sûrs d'une chose, même bien que nous irons voter, nous sommes sûrs d'une chose, la moitié de ce qui est promis ne sera pas tenu. Aujourd'hui, quand on parle de la politique à certaines personnes, ils détournent le regard et leur attention parce qu'ils se disent, ces personnes ne sont plus crédibles. Ils se disent, ces personnes ne sont plus crédibles. Et moi, cet après-midi, le titre du message que je vais apporter au travers de ce que j'ai lu, c'est « Sois crédible ». Ou encore, puisque nous sommes nombreux à nous révéler, à nous réclamer d'appartenir au Seigneur, c'est Soyons crédibles. Parce que si je demandais tout à l'heure, si je demandais à toute l'assemblée, combien se reconnaissent comme enfants de Dieu ici au milieu de nous, là, là, maintenant, je crois que tous vous lèverez, ou au moins 90% de la salle lèverait les mains pour dire, je suis un enfant de Dieu, je me reconnais comme chrétien. Mais alors, si je me reconnais comme chrétien, il faut que je sois crédible. Il faut que je sois crédible. Parce que le Seigneur attache une importance capitale à la crédibilité de ses enfants. Et si je ne suis pas crédible, il y a, d'après ce que j'ai entendu, il y a un groupe de l'Église qui est au Sénégal. Et vous savez que là-bas, vous le savez certainement mieux que moi, ils annoncent la parole. Tout à l'heure, le frère s'est réjoui de ce que les gens sont assoiffés, ont faim, ont soif et ont envie de davantage de cette parole. Mais si ceux qui l'annoncent ne sont pas crédibles, alors on risque d'avoir beaucoup de déperditions. Beaucoup de déperditions. Le Seigneur veut que ses enfants soient crédibles dans le monde où ils vivent, qu'ils soient crédibles à l'église, qu'ils soient crédibles au travail, qu'ils soient crédibles, j'allais dire, au supermarché. Le Seigneur le veut. Parce qu'il dit ceci dans Romains 12. Je ne sais pas trop comment ça marche. Voilà, ça marche. Dans Romains 12, au chapitre 2, il dit ceci. Ne vous conformez pas au monde actuel, au siècle présent, dans certaines traductions. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Il dit, ne vous conformez pas. Parce que si nous nous conformons, nous risquons de perdre notre crédibilité. Ailleurs, il dit, dans Jean 13, il dit ceci, le verset 35, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront. Le Seigneur veut que l'on reconnaisse. Et dans Jean 17, 20 à 21, il dit ceci, en parlant de la fameuse prière sacerdotale, il dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voyez-vous, le Seigneur attache quelque chose de, attache une importance particulière au fait que tes enfants soient crédibles. Alors, je vais faire de la provocation peut-être. Dis-moi, est-ce que tu es un chrétien crédible? Est-ce que, si on te posait la question aujourd'hui, es-tu crédible en tant qu'enfant de Dieu? Que répondrais-tu? Que dirais-tu? Si on posait la question à, je pense qu'il y a des étudiants parmi nous peut-être? Je ne sais pas, il n'y a plus d'étudiants parmi nous. Si on posait la question à ton responsable, quelque chose comme ça, et on demandait, qu'est-ce qu'il pense de toi? Est-ce qu'il dirait, tu es crédible? Pour ceux qui sont mariés, si on pose la question à ton époux, à ton épouse, qu'est-ce qu'il dirait? Mon mari est crédible? Mon épouse est crédible? Le Seigneur veut que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous le soyons. Alors, dans le passage que nous avons dit, que nous avons lu, Paul dit quelque chose d'important à Timothée. Il lui dit que l'on ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle. Un modèle pour qui? Un modèle pour les croyants. D'abord, n'est-ce pas? Et pour être crédible, il faut que vous et moi soyons des modèles. Il faut que vous et moi soyons des modèles. Vous savez, un modèle, c'est quoi? Un modèle, c'est quelque chose qu'on a envie de suivre. Parce que si tel est mon modèle, certains disent mon mentor, n'est-ce pas? C'est que j'ai envie de le suivre et de lui ressembler, simplement. Alors, suis-je un modèle dans l'Église? Dans le monde où je vis, est-ce que je suis crédible? Donc, la première chose que va m'imposer le fait d'être crédible, c'est d'être un modèle. Et si je dois être un modèle, la parole de Dieu me dit, il faut que je commence à faire un travail sur moi-même. Parce qu'il n'y a pas de modèle sans un travail personnel. Vous savez, oh, Dieu, quand je le dis, les gens rient toujours. Tout le monde connaît des top modèles, n'est-ce pas? Vous avez regardé peut-être à la télé, vous avez vu les défilés de mode, etc. Vous voyez des top modèles et vous voyez ces jeunes gens, ces jeunes femmes qui passent et qui défilent. Vous savez, pour qu'elles arrivent à garder la ligne qu'elles ont, vous ne savez pas les sacrifices que ces personnes font. En termes de régime, en termes de sport, en termes de tout, c'est inimaginable. Pourquoi? Parce qu'elles veulent rester des top modèles. Le Seigneur dit que si nous voulons être des modèles, la première chose, c'est que nous devons faire un travail sur nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas donner aux autres envie de nous ressembler si nous-mêmes, nous ne sommes pas crédibles. Alors voilà ce qu'il dit. Dans Luc au chapitre 6, vous connaissez le passage, il dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil, dans ton propre œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Enlève d'abord. C'est-à-dire, commence par faire un travail sur toi-même. Pour pouvoir être un modèle pour les autres, il faut que tu fasses un travail sur toi-même. Parce que si vous avez un aveugle qui veut vous enlever quelque chose dans l'œil, je ne sais pas si vous lui confierez votre œil. Certainement pas. Vous savez, nous sommes prompts, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, nous sommes prompts à dénoncer les lacunes des autres. Nous sommes prompts à dire que tel n'est pas à la hauteur, etc., etc. Alors que la parole de Dieu me dit, si je veux aider quelqu'un, il faut que je fasse un travail sur moi-même. Alors je vais vous raconter une histoire. J'étais dans une assemblée. J'ai appartenu à plusieurs églises locales. Alors, dans une assemblée, il y avait une dame, excusez-moi les sœurs, mais c'était une dame. Et elle passait pour être ce qu'on appelle une super spirituelle. Vous connaissez les gens qui vous donnent des leçons tous les jours parce que vous n'êtes pas à la hauteur, parce que vous ne vivez pas votre vie comme il le faut, parce que vous ne priez pas bien, parce que vous ne vous tenez pas bien à l'église, parce que vous venez habiller un peu n'importe comment, etc. Bref, une très, très spirituelle. Dans cette église, il y avait deux réunions. Une le matin et une autre l'après-midi. Et entre les deux réunions, il y avait un moment où les gens passaient à l'église pour le déjeuner, ils restaient pour déjeuner. Ça vous arrive ici, je présume. Donc, ils sont restés ce jour-là. Et il se trouve que, je sais pas comment c'est arrivé, mais elle s'est prise la tête, comme on dit couramment, avec une autre sœur, au point où ces deux sœurs en sont venues aux mains. Donc, parce que ça se passait dans le lieu du culte. Elles en sont venues aux mains, ça paraissait bizarre. C'était tellement grave qu'il y a même des ciseaux qui sont sortis. Bref, c'était affreux pour des enfants de Dieu et surtout pour une qui se réclame être hyper, super spirituelle. Et voyez-vous, si la chose s'arrêtait là, on pourrait dire la gravité est circonscrite. Sauf que dans l'assemblée ce jour-là, il y avait aussi un monsieur en particulier qui attendait son cours de baptême. C'était un monsieur pour qui nous avions prié parce que sa femme était dans l'église et elle avait demandé que l'on prie pour son mari, pour qu'il se donne au Seigneur. Cet homme est venu. Il a écouté la parole de Dieu. Il a voulu suivre le Seigneur. Il a commencé les cours de baptême. Et ce jour-là, il a assisté à ce spectacle. Ce monsieur est parti de l'église
et on ne l'a plus jamais revu. Et pourtant, il avait commencé les cours. N'est-ce pas? Avant de chercher à enlever la paille de l'œil de ton frère, commence par enlever la poutre qui est dans ton œil. Fais un travail sur toi-même. Pour être un modèle, il me faut donc faire un travail sur moi-même. Alors, quels sont les 5 domaines que Paul, ici, identifie en disant à Timothée, sois un modèle, il identifie 5 domaines. Je pense pas que ce soit exhaustif, hein, mais il y a 5 domaines. Le premier, c'est la parole. Le deuxième, la conduite. Troisième, c'est l'amour. Quatrième, c'est la foi. Le cinquième, c'est la pureté. Si vous voulez bien, on va juste parcourir rapidement chacun de ces domaines. Commençons par la parole. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Je crois que vous connaissez ce passage qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. N'est-ce pas? Quelqu'un a dit, nos paroles sont le résultat final ou partiel de la synthèse de nos pensées, nos sentiments et nos émotions. Le résultat final ou partiel de la synthèse de nos pensées, nos sentiments ou nos émotions. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on a dans la tête et ce qu'on a dans le cœur. Ça veut dire aussi ceci. Si je t'entends parler pendant un moment, je peux savoir exactement qui tu es. Parce qu'à travers tes paroles, tu vas exprimer ce qu'il y a dans ton cœur et ce qu'il y a dans ta tête. Alors, sois un modèle en parole, a dit Paul à Timothée. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Paul lui donne ici des éléments, n'est-ce pas, pour qu'il soit un modèle en parole. La parole de Dieu nous indique ces choses-là. Et je vais encore lire dans Jacques 3, 10, où il est dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, mes frères et sœurs. Il ne faut pas qu'il en soit, que tel en soit le cas. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Comment je parle à mes frères? Comment je parle à mes sœurs? Est-ce que quand je parle, ceux qui m'entendent ont encore envie de m'écouter? Ou bien quand on dit, oh, c'est lui, il va encore dire des bêtises? Ou bien quand on l'écoute franchement, on a des maux de tête. Je ne sais pas, moi. Dans Éphésiens 4, 29, il est dit ceci. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Transmettent une grâce. Vous savez, quand on dit que ta parole transmette une grâce, c'est-à-dire, en fait, qu'on ait des paroles bienveillantes. Parce que parfois, les personnes qui sont en face de nous, on n'a pas tellement envie de... On n'a pas envie parfois de leur mettre des claques. Parce qu'on se dit, celui-là, franchement... Mais non, le Seigneur nous dit que ta parole transmette une grâce. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. On mérite des claques, vous ne pensez pas? Nous méritions, de la part du Seigneur, pire que des claques. Et lui, il nous a fait grâce. Et le Seigneur nous dit qu'en fonction des circonstances, parfois, on peut être vraiment agacé par quelqu'un. Et je suis sûr que dans l'Église, il y a de temps en temps des agacements. Hein, c'est clair, vous ne pouvez pas me dire, parce que nous sommes des hommes, hein, faut pas se mentir. Et vis-à-vis des uns et des autres, parfois, on est vraiment agacé. Si on ne contrôle pas sa langue, il y a des mots qui vont fuser. Le Seigneur dit, qu'il ne doit pas en être ainsi. Selon les circonstances, je dois toujours pouvoir communiquer une grâce. Quelque chose, une grâce, quelque chose qu'on ne mérite pas, tout simplement. Alors, comment sont tes paroles? Sois un modèle en parole, si tu veux être un enfant de Dieu crédible. Le deuxième point que Paul indique ici, c'est la conduite. Il lui dit, sois un modèle en conduite. La conduite, c'est notre manière de vivre au quotidien, entre frères et sœurs, mais aussi au travail, à l'école, partout où nous sommes. C'est notre manière de vivre. Je l'ai demandé tout à l'heure. Ceux qui te regardent vivre, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Parce qu'on peut, j'allais dire à l'église ou quelqu'un que l'on rencontre dans la rue, on peut lui faire une très bonne impression. C'est pas très difficile d'être gentil avec quelqu'un que l'on va voir pendant 2 ou 3 minutes. C'est pas compliqué, on peut prendre sur soi. Mais ceux qui nous regardent vivre tous les jours, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Qu'est-ce que mes enfants, si j'ai des enfants, disent de moi? Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que mon frère, ma sœur dit de moi? Qu'est-ce que mon mari, qu'est-ce que ma femme dit de moi? Quelqu'un a dit, et j'aime bien ce mot, notre attitude détermine notre altitude. Notre attitude détermine notre altitude. Voyez-vous? De la manière dont je me conduis, l'on peut dire, celui-là, c'est un enfant de Dieu, ou bien celui-là, franchement, il se réclame d'être un enfant de Dieu, mais il ne convainc personne. Mon attitude détermine mon altitude. Paul dit dans 2 Corinthiens 6, au verset 3, « En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle afin que notre service soit sans reproche. Nous ne voulons représenter un obstacle. Et dans Matthieu 5, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. De la même manière, votre lumière brille. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Vous savez quoi? Une attitude modèle participera à l'évangélisation. Une attitude modèle participera à l'évangélisation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Comores. Vous connaissez les Comores, je pense, dans l'océan Indien, quelque chose comme ça. J'ai lu hier un témoignage. Un chrétien qui dit, dans les Comores, c'était écrit dans la loi, il est interdit d'évangéliser. Il est interdit d'évangéliser dans les Comores. Mais ce frère dit que son voisin est devenu chrétien parce qu'il lui a dit qu'il avait un comportement qui le pousse à vouloir lui ressembler. Quand j'ai dit ça, je me suis dit, tiens, ça, je vais leur dire ça demain. Parce qu'il a un comportement qui l'a poussé à venir le questionner sur sa foi. Et il lui a parlé du Seigneur et son voisin est devenu chrétien. Alléluia. Vous savez, notre attitude participe à l'évangélisation. Ça, c'est une phrase que j'avais écrite depuis longtemps. Mais ce que j'ai lu hier conforte ce que j'ai écrit là. 1 Pierre 2, 12 dit ceci. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Et ça correspond parfaitement à ce qui est arrivé à cet homme-là. Parce que le jour où le Seigneur l'a visité, en se rappelant de la belle manière de vivre de son voisin, il s'est dit, je veux lui ressembler. Quel témoignage! Est-ce que quelqu'un a jamais dit autour de vous, je veux lui ressembler? En parlant de vous, faisons en sorte que ça arrive une fois au mois. Alléluia! Que ceux qui nous regardent puissent dire, je veux lui ressembler. Oui. Soyez des modèles. Soyons des modèles. Et Philippiens 4 va ajouter ceci, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Votre douceur. Le troisième point sur lequel Paul invite Timothée à être un modèle, c'est d'être un modèle en amour. Voyez-vous? C'est un mot qui est très galvaudé aujourd'hui. Mais ici, il s'agit de cet amour qui se manifeste au travers du pardon, de la patience, de la bonté et de la bienveillance. Tous nous connaissons ce passage de 1 Corinthiens 13 qui nous dit ceci. Je vais lire juste les versets 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alléluia. Ce type d'amour-là, mes amis, faut le dire, hein, il n'est pas humain. Parce que l'homme naturel est incapable d'aimer de cet amour-là. Il faut pas se voiler la face, c'est impossible en tant qu'homme de pouvoir vivre cet amour. Impossible. Il faut une visitation du Saint-Esprit pour nous rendre capables de vivre ça. Mais si nous sommes enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ceci nous est accessible en tant qu'enfants de Dieu. Alors, recherchons ce type d'amour, parce que par lui, nous sommes crédibles et nous sommes des modèles. La quatrième chose que Paul va dire à Timothée, c'est « Sois un modèle en foi ». La foi, la Bible dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, voyez-vous, c'est la hardiesse dans l'obéissance. La hardiesse dans l'obéissance. Le fait de savoir oser quand tout semble être complètement, quand tout semble s'opposer à ce qui est tout ce qui est logique, rationnel. C'est Pierre qui dira à Jésus dans Luc 5, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Voyez-vous, Pierre, Jésus est dans la barque de Pierre. Ils sont sur le lac. Pierre a travaillé toute la nuit. Il a travaillé partout où le Seigneur peut lui dire « jette le filet », il l'a jeté le filet, il n'a rien pris. Et pourtant le Seigneur lui dit « avance en pleine eau et jette le filet ». Il aurait pu dire à Jésus « écoute, Seigneur, je t'aime bien, tu parles bien, mais vois-tu le lac, je le connais, c'est quand même ma sphère, mon espace de travail. Et moi toute la nuit j'ai pêché là, tu me dis de jeter le filet, je peux te garantir qu'il n'y aura rien ». Ça aurait semblé logique, parce que Pierre, c'est un professionnel de la pêche. Mais non, il a dit, j'ai travaillé toute la nuit. Logiquement, je ne devrais pas faire ce que tu me dis, mais sur ta parole, je jette le filet. Et il a jeté le filet, et la Bible nous dit que le filet était plein à se rompre. C'est ça, la foi. Sois un modèle en foi. Dans Matthieu 14, les versets 28 à 29, le Seigneur dit ceci. Seigneur, et c'est Pierre qui le dit encore. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Certainement, vous la connaissez. Les disciples sont dans la barque. Ils rament. Les courants sont contraires. Et ils voient Jésus arrivant, marchant sur les eaux. Ils sont apeurés et Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir le penser d'abord et de pouvoir le mettre en œuvre. Et le Seigneur lui dit, viens, et il se lève et il vient. C'est la hardiesse dans la foi. Mes amis, est-ce que je crois ce que le Seigneur me dit dans sa parole? Est-ce que j'ai un attachement profond à ce que Dieu dit? Est-ce que quand Dieu me dit « ne crains pas », je m'effraie encore? Est-ce que quand Dieu me dit « je te soutiens de ma droite triomphante », je tremble devant l'adversité des hommes? Sois un modèle en foi. Si nous voulons être crédibles, il faut que notre foi soit une foi qui se manifeste, que l'on voit. Ce n'est pas simplement de proclamer, de dire « je crois ». Et lorsque je suis malade, on dit « viens, on va prier pour toi ». Je dis « non, ça ne vaut pas la peine parce que je ne crois pas que je pourrai guérir ». Ça, c'est un manque de foi. Le Seigneur a dit « priez pour les malades ». Et je prie pour les malades, pour que les malades guérissent. Je ne dis pas que quand je vais prier, le malade va forcément guérir automatiquement. Non. Mais je dis ce que je dis et je fais ce que Dieu me demande. Parce que je crois que ce qu'il demande, il est capable de le faire, de le réaliser. C'est ça la foi. Il fait toutes choses belles en son temps, me dit la parole de Dieu. Et je ne suis pas le maître du temps et des circonstances, mais il m'appartient de faire ce que Dieu me demande dans sa parole. Parce que je crois que sa parole est la vérité et que lui accomplit sa parole comme il le dit. Vous comprenez ça? C'est ça la foi. Et si je marche dans la foi, je verrai forcément les résultats parce que Dieu est fidèle et il accomplit sa parole. Le cinquième point que Paul évoque pour le jeune Timothée, c'est « sois un modèle en pureté ». La pureté. Vous savez, la pureté, ce n'est pas le fait d'être sans défaut ou bien d'être, j'allais dire, sans souillure. La pureté, c'est la motivation de nos actions. On dit, et la Bible dit, que l'homme que nous sommes, les hommes que nous sommes, regardent à ce qui frappe les yeux. C'est vrai, on est sensible, on regarde, on dit « waouh, quel homme de foi, waouh », etc. Parce qu'on est sensible à ce qui frappe le regard, à ce qui touche au sens. La parole de Dieu nous dit que Dieu regarde au cœur, n'est-ce pas? Quand je fais une chose, est-ce que je la fais avec une droiture de cœur dans le but de plaire à Dieu, ou bien je le fais pour que les autres me voient et disent « waouh, il est bien ce garçon, il est bien cette jeune fille, elle est bien cette jeune fille. » Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 1er, au verset 12, « En effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde et plus particulièrement vis-à-vis de vous avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. » Le Seigneur nous demande que nos actions, que, je veux dire, notre moteur, ce qui nous motive, soit d'aligner nos paroles, nos pensées, nos actions, ou la motivation de nos actions sur sa parole. C'est ce qui plaît à Dieu. Et c'est ça la pureté. C'est que je recherche au travers de ce que je fais, non pas une gloire personnelle, mais je cherche à aligner ma pensée ou mon action à l'aligner sur le dessein, la volonté de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça en fait. Quand j'aligne ma pensée sur la pensée de Dieu, pour agir, j'agis dans la pureté selon Dieu. Être un modèle dans ces cinq domaines est indispensable. Si nous voulons être des disciples de Jésus-Christ crédibles au milieu de nos frères et sœurs, mais aussi dans le monde. Mais ce n'est pas tout. Voyez-vous? Être crédible, c'est pas seulement être un modèle. Mais être crédible va aussi nous imposer d'approfondir notre connaissance de Dieu. Être crédible va t'imposer, va m'imposer d'approfondir ma connaissance de Dieu. Les versets 13 à 16 que nous avons lus nous rendent compte de cela. Vous savez, l'ignorance est à l'origine de beaucoup de maux et beaucoup de fausses doctrines. L'ignorance. Et l'ignorance est aussi à l'origine du fait que beaucoup de gens vont suivre des personnes en croyant être dans la bonne voie. Mais ces personnes sont, on dit, sincèrement trompées. Oh, je vais vous faire rire, je vais vous raconter une anecdote. C'est dans un village, pour parler de l'ignorance. C'est dans un village, il y a une dame qui attend, qui est enceinte. Elle a un gros ventre, tout le monde sait qu'elle va accoucher bientôt, et le moment d'accoucher arrive. Alors, dans ce village, vous savez, il n'y a pas d'électricité, hein, il n'y a pas d'eau courante. On chauffe l'eau, etc. On appelle la sage-femme. Elle vient, la dame. Elle demande qu'on allume une lampe. On allume une lampe. Et puis, elle va pratiquer l'accouchement. Elle approche la lampe. Elle dit à la dame, je vois une tête. Elle libère le bébé. Et elle va déposer la lampe. Elle dit, mais non, attends, rapproche la lampe. Je vois encore une autre tête. Elle délivre l'enfant. Et, mais non, c'est pas fini. Attends encore. Rapproche la lampe. Il y a encore une autre tête. Et elle délivre à nouveau l'enfant. Alors la femme qui accouche exaspérée lui dit, mais éloigne-moi cette lampe de là. Tu ne vois pas que c'est la lumière qui attire les bébés. Donc pour cette dame, c'est la lumière qui attirait les bébés. Elle attendait, elle était enceinte, elle avait des triplets. Mais pour elle, c'est la lumière qui attirait les bébés. L'ignorance peut nous faire... C'est peut-être exagéré, mais c'est pour montrer à quel point l'ignorance peut nous faire dire et croire n'importe quoi. Osée 4, 6 va dire ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dira ceci, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Vous savez, le Seigneur veut que nous ajoutions à notre foi la connaissance, n'est-ce pas ? Il dit de faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi la connaissance. Vous savez, vous et moi, nous sommes des sacrificateurs du Dieu très haut. Nous sommes des sacrificateurs en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 6, ou bien le chapitre 5, le verset 10. Apocalypse nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Et la Bible dit, si le sacrificateur rejette la connaissance, il lui sera difficile d'exercer la fonction de sacrificateur, de prêtre pour Dieu. La difficulté, pourquoi est-ce qu'on rejette la connaissance? Parce que rechercher, approfondir la connaissance, c'est pas gratuit. Autant on dit que la foi est gratuite, et c'est vrai, parce que Christ a tout payé. Autant approfondir la connaissance va nous coûter, les amis. Approfondir la connaissance de Dieu, ce n'est pas gratuit. Ça va nous coûter. Parce que ça va nous coûter, Paul dit ceci à Timothée, il lui dit, applique-toi. Applique-toi à la lecture des Écritures. Applique-toi à encourager. Applique-toi à enseigner. Applique-toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Il nous faudra prendre le temps, chacun individuellement, à lire la parole de Dieu. Chaque fois que je le dis, j'ai l'impression de dire quelque chose qui est évident, mais je me rends compte dans les entretiens que j'ai que beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Je le dis à notre honte en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des chrétiens qui marchent avec le Seigneur depuis 5 ans et peut-être plus et qui n'ont jamais lu le Nouveau Testament en entier, par exemple. Il y en a qui n'ont même jamais lu un évangile en entier. Ils connaissent des versets comme ceux qui sont affichés. Ils connaissent des versets. Mais ils n'ont jamais pris le temps de lire la parole de Dieu pour savoir ce qu'elle dit. Ils connaissent des bribes au travers des messages, au travers des prédications. Mais cela ne suffit pas. Applique-toi. Applique-toi. Paul va dire aussi à Timothée, veille. Veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. C'est-à-dire, fais attention pour que ce que tu enseignes soit conforme à ce qui est écrit, à ce que Dieu dit. Parce que si tu ne veilles pas, tu risques d'enseigner des choses qui ne sont pas conformes. Et pire encore, tu risques de suivre des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Je vais prendre quelque chose de simple. Vous avez tous entendu parler de cet enseignement sur la prospérité. L'évangile de prospérité. N'est-ce pas? On te dit, ce n'est pas normal qu'un chrétien soit pauvre. S'il est pauvre, c'est qu'il a un problème. C'est que sa foi n'est pas sérieuse. Je vais le dire, mais si tu lis un peu la Bible, juste un tout petit peu, si tu lis un peu les évangiles, si tu vois la vie des disciples, des apôtres, des 12, tu peux te rendre compte que ce n'était pas des richissimes. Par rapport à leur époque, ce n'était pas les plus riches. Et pourtant, les gens vont se tenir pour te dire, en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne roules pas en limousine, tu as un problème. Et il y a des milliers de personnes qui suivent ces enseignements. Veille. Veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. De Timothée 4, 3 à 4 dit ceci. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Parfois, on veut bien entendre certaines choses. Et c'est pratique. Quand quelqu'un le dit comme ça, on se dit, voilà, c'est la vérité, je ne prends pas le temps d'aller voir ailleurs parce que ça correspond un peu à ce que je voulais entendre. Mais non, veille. C'est ta responsabilité si tu veux être un modèle, si tu veux être crédible. Paul dit à Timothée, persévère. La persévérance, voyez-vous, c'est la continuité dans l'effort. On n'aime pas trop ce mot aujourd'hui. L'effort, c'est pas un mot qui est à la mode, n'est-ce pas, qui est porté au nu. Non, on aime la facilité, on aime les choses qui viennent toutes seules. Mais il faut persévérer. Il faut être persévérant dans l'effort. Et Paul dit que si on persévère, alors cela a des conséquences. Des conséquences sur un plan personnel, c'est-à-dire j'en tire des bénéfices pour moi. Il dit que si je persévère, cela me rend légitime. Tes progrès seront évidents pour tous. Jésus dira, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et Pierre, dans 1 Pierre 5, dit ceci, « Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. »
Quant à celui qui ne possède pas ses qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Mais l'intérêt de la persévérance n'est pas seulement un intérêt personnel. Il y a aussi un intérêt sur le plan de l'Église. Parce que quand je persévère, je suis crédible aux yeux de mes frères et de mes sœurs. Et mieux encore, je participe à leur salut. Parce qu'il dit ceci, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est le verset 16. Sois crédible. Sois crédible. Cet après-midi, où en est ta crédibilité en tant qu'enfant de Dieu? Cet après-midi, où en est ton témoignage en tant que chrétien, en tant que chrétienne? Est-ce que ceux qui te regardent vivre voient vivre un enfant de Dieu et ont envie de le suivre? Ou bien ceux qui te regardent vivre disent, bof, il est comme moi, il n'y a rien de différent en lui. Vous savez, si les autres le disent, alors ils n'auront pas envie de changer de vie, parce qu'on ne leur donnera pas envie de changer de vie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut que ceux qui me regardent vivre aient envie de changer de vie, aient envie de me ressembler, parce que moi, je ressemble à Christ. Alléluia, on va prier. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es venu en Jésus-Christ nous sauver du péché et de la mort, nous délivrer, Seigneur, des chaînes du péché. Tu nous as sortis, Seigneur, de cette boue. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés par ton sang, tu nous as remplis de ton Esprit Saint. Tu nous as dit d'aimer ta parole. Tu nous as dit de t'aimer en suivant tes commandements, Seigneur. Et nous nous sommes réjouis dans ta présence. Nous avons accepté de marcher dans tes voies, Seigneur. Mais tu connais nos faiblesses. Tu sais combien de fois, parfois, nous oublions qui nous sommes en toi. Et les attraits du monde semblent nous séduire. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous parce que nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Mais ce soir, toi qui connais la vie de chacun d'entre nous ici, je te prie, notre Dieu, notre Roi, que tu aides chacun d'entre nous à rentrer en lui-même comme le Fils prodigue, Seigneur Dieu. À rentrer en lui-même, Seigneur, pour voir ce qui dans sa vie est un obstacle au fait d'être crédible dans le fait qu'il est ton enfant, dans le fait qu'il t'appartient, dans le fait qu'il est la lumière du monde, qu'il est le sel de la terre. Seigneur, s'il te plaît, fais ton œuvre dans mon cœur, dans nos cœurs par le Saint-Esprit, pour que nous puissions marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès. Pour que quand le monde nous regarde, Seigneur, il puisse dire, ils sont différents, ils ont quelque chose d'exceptionnel. Que l'on puisse dire, Seigneur, comme on a dit de Paul et des autres, ces hommes ont bouleversé le monde par leur enseignement, ont bouleversé le monde par leur conduite, Seigneur. Que nous puissions bouleverser notre environnement parce que nous t'appartenons, parce que ton Esprit Saint est à l'œuvre à travers nous. Et que nous serons des instruments, Seigneur, entre tes mains, de véritables ambassadeurs pour toi, Seigneur. C'est ce à quoi tu nous appelles. Seigneur, nous voici devant toi. Tu entends nos cœurs, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Seigneur. Entends le cœur de chacun à cet instant. Entends la prière de chacun à cet instant, Seigneur. Et donne la force, donne l'énergie, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous dis que toute notre capacité vient de toi, Seigneur. Rends-nous capables par la puissance de ton Esprit agissant en nous. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions, Père. Amen.